Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour, et donc nous sommes pas vraiment en direct, mais presque. Voilà, Stéphane est en commande. Et je vais vous parler d'un film un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous le savez, mais je m'occupe, nous parlons cinéma à l'Université du Tiers-Temps tous les lundis après-midi. On est quand même très nombreux, puisqu'on est presque 200 ou quasiment. Voilà, et donc nous allons voir des films d'actualité au Diagonal, mais une fois par mois, on fait venir des films du patrimoine. Et donc nous avons créé, c'est la troisième année cette année, le Big Boss d'Or. Alors le Big Boss d'Or, évidemment, revient au réalisateur qui nous a semblé le plus exceptionnel pendant cette année. Il faut quand même dire que cette année, ça a été un bon millésime. Il y a eu beaucoup d'excellents films. Et comme je fais venir une fois par mois un film du patrimoine, aujourd'hui j'ai décidé, c'est pas le Big Boss d'Or parce qu'il a eu un peu moins qu'un film d'actualité dont je vous parlerai peut-être une autre fois, mais là je veux vous parler des films que nous avons fait venir. Évidemment, si on les fait venir, c'est que ce sont tous d'excellents films. Et donc là, on a choisi, ça a été extrêmement difficile. Alors je voudrais vous donner la liste parce qu'elle n'est pas très longue puisque c'est une fois par mois, c'est donc 8 films. 8 donc films, ce qu'on appelle du patrimoine, enfin des films qui vont faire date dans l'histoire du cinéma. Donc on a fait venir d'abord Train étroitement surveillé de Jiří Menzel, qui est un film tchèque. Ensuite un film de Emir Kusturica, Arizona Dream. Ensuite, White God, qui n'est pas un film très ancien, je crois qu'il est sorti en 2013, mais qui est exceptionnel, de fantastique. C'est l'histoire de chiens qui prennent le pouvoir dans une ville. Il y a des prises de vue assez exceptionnelles. De Kamel Mudrunsko. Un été inoubliable de Lucian Patillé. Le tambour de Volker Schlendorf. Le prince de Hombourg de Marco Bellocchio. L'ami de mon ami de Eric Rohmer et Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Alors donc nous avons voté, c'est vrai, choisir trois bons films parmi les huit qui sont tous excellents, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais finalement, celui qui a eu la palme, en tout cas concernant, je vous dis donc un peu moins, il a eu 80, un point près. Hein. Celui qui est numéro 1, c'est un film d'actualité, mais là il arrive juste derrière. C'est Train étroitement surveillé. C'est d'autant plus incroyable, c'est un film vraiment que personne ne connaissait. Quoi. C'est une amie qui a 96 ans, qui est toujours formidable, et qui nous a dit « vous devriez regarder ce film ». Et en effet, et il a obtenu quasiment tous les suffrages. Alors, Les trains étroitement surveillés de Jiří Menzel, eh bien, c'est donc un tchèque. Alors, c'est vrai que parmi les tchèques, on connaît surtout Miloš Forman. Hein. Mais, donc, ce film, c'est quand même une très très belle découverte. Jiří Menzel, il est né en 1938. Et il a fait l'école du cinéma de Prague, qui est une école extrêmement bien cotée. Train étroitement surveillé a été réalisé en 1966. C'est son deuxième long métrage. Et il est adapté d'un roman tchèque de Bohumil Hrbal. Mais alors là, je m'excuse, mais je ne parle pas très bien tchèque. Bon. Et quand même, ce film a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 1968. Voilà, et vraiment, c'est tout à fait mérité. On peut dire que le réalisateur appartient à la nouvelle vague de cinéma tchèque. Alors, dès les premières images du film, on sent qu'on va rentrer dans un film vraiment pas banal. Parce qu'il y a une voix off, atone, d'un garçon qui est à l'image, qui est filmé en plan fixe, face caméra, et que sa mère est en train d'habiller, et que le réalisateur va faire jouer le décalage entre les propos, donc c'est-à-dire le son, et l'image, avec notamment une famille célèbre. C'est-à-dire il dit quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'image que nous voyons, voilà, qui n'a rien à voir avec la réalité. Et je vous rappelle que le cinéma, c'est le contraire de la réalité. Voilà, aujourd'hui, on l'oublie un peu, on veut toujours que ce soit réel. Non, foutez-nous la paix avec le réel, quoi, évidemment. Donc, en effet, le père, il dit, c'est le roi de la chaise longue, et le grand-père était un hypnotiseur et qui arrivait même à arrêter les tanks russes qui arrivaient en Tchécoslovaquie. Voilà, donc vous avez compris, un film très étrange. Alors, je vous propose, Stéphane, si tu en es d'accord, on s'écoute la bande-annonce.
Můj děda Vilém byl zase hypnotizér a celé město vidělo v jeho hypnotizování touhu co nejvíc se flákat životem. A děda Vilém, když Němci překročili v březnu naše hranice a pronikali směrem na Prahu, jediný náš děda šel Němcům vzdorovat jako hypnotizér, zadržet pronikající tanky silou myšlenky. Ruce měl napřažené a očima stříkal Němcům myšlenku, obraťte se a jeďte naspátek. A opravdu ten první tank zastavil a celá armáda zůstala stát, ale potom se tank rozjel a děda neuhnul a tank jej přejel, uskřípnul mu hlavu a už říšské armádě nic nestálo v cestě.
Ahoj, Mášo.
No tobě to ale sluší.
Tobě to taky sluší, Mášenko.
Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce du film Train étroitement surveillé. Ben, déjà, c'est quand même assez bien vu parce qu'on entend, vous avez remarqué au démarrage, il y a un texte. Bon, évidemment, on ne l'a pas compris puisqu'il est en tchèque, mais ça, c'est sur des images d'archives et ça explique qu'on est quand même en temps de guerre parce que c'est un film qui joue à la fois sur la guerre et la paix. Alors, je vais vous parler de ce jeune garçon qui explique des tas de choses, que son père était le roi de la chaise longue, etc. Ensuite, il y a la caméra qui fait comme un panneau panoramique des pieds jusqu'à la tête sur le jeune Milo, parce qu'il s'appelle Miloche, hein, je crois qu'on dit Miloche. Et la façon dont est filmée la mise en place du chapeau, on lui met un chapeau sur la tête, c'est en gros plan, c'est tenu par deux mains dont on se doute bien que ce ne sont pas les mains de sa mère qui est en train de l'habiller. Et ses mains, on va s'apercevoir que plus tard, ce sera la résistante au nom bien vu qui est Victoria, résistante qui va faire découvrir Miloche, qui sera devenu un adulte, et faire de lui un homme, et qui va, et ça va très bien avec la séquence du chapeau, c'est le couvre-chef. Donc vous voyez, c'est un jeune garçon qui va devenir un chef, parce qu'on va lui mettre un couvre-chef. Bon voilà, on entre donc dans un film dont le regard sera extrêmement malicieux, on le voit dès le départ, et c'est vraiment le cas du film. Puis alors arrive une musique, vous l'avez entendu, martelée un peu comme une marche militaire, et qui annonce le générique et montre donc le contexte de l'histoire avec ce que je vous le disais à l'instant, des images d'archives, de destruction dans une période de guerre. Et c'est donc un film qui joue sur la guerre qui est omniprésente et la paix. Il y a des colombes, mais aussi sur les jeux érotiques qui permettent de passer le temps. Alors, les humains qui vivent sur le quai de la gare, puisque ces trains étroitement surveillés, là encore, ça devient la... Encore, c'est comme un contrepoint. C'est comme un lieu clos. C'est une sorte de microcosme qui en dit long sur la nature humaine. Vous savez, les frustrés, les jouisseurs, les uns qui ont du mal à jouir de la vie, les autres qui vivent des aventures picaresques, coquines, voilà. Alors, le stagiaire Miloche, qui donc arrive, il est jeune adolescent, il arrive dans pour surveiller les trains, il reçoit des consignes. Il faut qu'une voie soit ouverte ou fermée. Vous voyez, c'est quasiment du musée, quoi. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors, le réalisateur a choisi de faire un film où le burlesque côtoie la tragédie. Et lorsqu'un des vieux employés, sans tirer le chariot, il tombe à la renverse. Par exemple, il veut donner, puis on s'aperçoit vraiment qu'il est incapable, qu'il est complètement HS, hein, hors service et fatigué. Au moment où il tombe, il y a un gag sonore, c'est-à-dire que les cloches qui marquent l'heure, l'arrivée d'un train, mais aussi les cloches qui sont dans sa propre tête, quoi. Ça veut dire qu'il y a une espèce de tourbillon sonore qui montre l'état dans lequel est ce pauvre homme. Voilà. On ne sait pas si ce sont des cloches réelles ou des cloches qu'il entend parce qu'il est tombé. Voilà. C'est comme une bande dessinée. Et la bande-son est hyper travaillée et montre bien le silence qui s'impose et doit s'imposer dans ce lieu en temps de guerre. C'est pour ça que ces espèces de contrepoints constants est très original. Alors, silence, ben, il faut bien le dire aussi, qui a été celui du réalisateur, Jiri Menzel, parce qu'après le film, c'était l'arrivée des soviétiques, le printemps de Prague, Eh ben, ça a arrêté complètement sa carrière et pendant un certain nombre d'années. Et si le film se situe dans les années 40, avec l'invasion des Allemands, évidemment, les apparatchiks étaient dévoués aux fureurs, qui arrivent debout sur les pare-chocs, des voitures qui empruntent les rails, et aussi les discours d'une valeur complètement olympienne qui annonce la mort de ceux... c'est la mort à ceux qui ne se servent pas, qui ne seront pas soumis. Donc, je veux dire, c'est très clair, quoi. Vous voyez, le manque de liberté et en même temps, cette espèce de malice comme ça dans le film, c'est un vrai bonheur, quoi. Et le départ, donc, de ces hommes hyper hitlériens, ils partent en leur marche. Ils arrivent parce que, oui, ils viennent faire la loi. Et puis, quand ils repartent, comme ils sont sur des rails, au lieu de faire demi-tour, ils partent en marche arrière. C'est très drôle parce que ça leur enlève toute autorité, évidemment. Et donc, parallèlement à cette guerre, le réalisateur raconte aussi le passage de Miloš, là, de ce jeune garçon, de l'enfance à l'adulte. Et il aura deux modèles masculins. Il y aura le chef, qui à un moment, il est là parce qu'il est, c'est un gentil, quoi. Alors, il est là en costume parce qu'il sait que il faut les gens qui sont à la solde de Hitler vont arriver, donc il a mis son beau costume. Tout d'un coup, il y a toutes les colombes de la paix qui viennent et qui le salissent parce que bon, il s'oublie un petit peu sur son costume. Voilà, c'est-à-dire que voilà. Et puis en même temps, vous avez le sous-chef qui lui s'amuse avec des jeux érotiques. Enfin bon, voilà, tout ça est très compliqué parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de. On sent le drame et en même temps, c'est d'une drôlerie formidable. L'obsession du sexe, évidemment, est omniprésente. Avec notamment, il y a l'arrivée de la comtesse. Alors il y a une comtesse qui arrive. Elle est sur son cheval. C'est presque une vision onirique, poétique, mais il y a notamment la vision en insert du sous-chef qui, lui, cette vision poétique prise en plan large, lui, il se focalise sur les fesses, vous voyez, notamment il regarde les fesses qui caracolent sur la croupe du cheval, voilà, donc ça veut dire que tout d'un coup, ou alors il filme aussi l'entrejambe de la dame, vous voyez, au moment où elle monte, où elle descend du cheval, voilà, ça veut dire que tout d'un coup, dans cette même image poétique, lyrique, eh bien, on peut, le point de vue des uns et des autres peut être évidemment différent, suivant la façon dont on se focalise sur les choses. Ou alors vous avez le chef suprême qui arrive, donc hitlérien, machin, dans son manteau de fourrure. Il explique qu'avec le Führer, ils vont sauver la civilisation. Eh bien, le regard de son chef se porte en plongée sur la jeune femme, dont la fameuse cousine, qui met son crayon dans son décolleté. Vous voyez, donc c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est « parle toujours, tu m'intéresses ». C'est-à-dire, il suffit de regarder les choses autrement, même dans une séquence qui est tragique, et tout d'un coup, l'humour arrive, quoi, voilà. C'est profondément humain, et c'est peut-être la belle chose de la part des humains, évidemment. Et puis, on a une séquence aussi très amusante, c'est celle où le chef mange sa soupe, la soupe qui a été préparée par sa femme. Et en son off, on entend les rires de la cousine, enfin, cousine, c'est une petite péripatéticienne, on va dire. Et alors, ils sont là en train de se marrer avec le sous-chef parce que, bon, ils se font des chatouilles, etc. Et alors, vous avez la séquence qui suit, on voit le chef qui aimerait bien aller rire aussi de l'autre côté, mais sa femme lui a mis les chevaux de laine, vous savez, dans ses mains. Et alors donc il est là, sa femme fait la pelote et lui, la pelote de laine, et lui il tient les chevaux, quoi. C'est-à-dire, donc c'est intéressant parce que c'est en même temps les images liées qui ridiculisent le chef et qui le lient à une femme. Bon, et donc c'est sa femme qui le tient. Et oui, elle le tient par la pelote de laine, là, voyez, bon. Alors, l'amour chez Miloš est un peu compliqué. Hein. On s'imagine que dans ce contexte, c'est pas très simple. Et alors, déjà, il est avec Masha. À un moment, ils veulent échanger un tendre baiser. Et tout d'un coup, c'est le sifflet du départ du train qui vient s'interposer. Il y a toujours quelqu'un qui vient au milieu. Voilà. Et évidemment, toutes ces frustrations vont l'amener. Et ben, ça va lui couper le sifflet, si je puis dire. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est-à-dire, au moment crucial, tout d'un coup. Il peut plus. Alors, ce qui fait que ça va même, c'est dramatique, parce que ça va, il va faire d'ailleurs une tentative de suicide. Et là encore, il y a des choses, on va essayer de le sauver en cassant le mur carrément pour aller le retrouver en prison, voilà, pour sauver Miloš. Voilà. C'est-à-dire, au fond, on s'aperçoit que, là aussi, ça en dit long sur le contexte historique, c'est-à-dire qu'il faut casser pour essayer de nous sauver, vous voyez. Donc, bon, c'est les choses, la casse, la déchirure, ça c'est omniprésent, avec notamment les effets, enfin, il y a des amours sur le canapé, alors il déchire le canapé, justement, en faisant l'amour, etc. Alors c'est recousu, et justement par la femme du chef de gare, enfin bon, tout ça est vraiment une espèce de folie douce, tellement charmante, quoi. Vous avez aussi des séquences qui sont parlantes dans cette vie de silence, parce que tout ça se passe, il n'y a pas beaucoup de mots, évidemment. Mais vous avez en revanche les trains qui passent, qui sont remplis d'infirmières, d'ailleurs au grand cœur, hein, mais pas seulement, quoi, vous voyez, très chaleureuses. Il y a des scènes orgiaques, voilà, à qui on interdit évidemment l'entrée à Miloche, parce qu'il ne doit pas voir ce qui se passe dans le train, voilà. Donc des scènes de convoi, en même temps qu'ils véhiculent des morts, puis il y a aussi des peintures avec des explications. Et ça crée des vagues. Enfin, donc, c'est une sorte de résistance, mais tellement drôle, quoi. C'est contre l'envahisseur. Alors, je vous le disais, la musique aux accents militaires, quand même, quelquefois, prend des accents peut-être plus lyriques et même romantiques. Hein. Et notamment, il y a la séquence aussi, excusez-moi, mais ça, j'y repense, la main baladeuse du chef, quoi. Ça, là aussi, c'est drôle comme tout. Et les cadrages, notamment, on s'aperçoit que Miloche, quand il est vraiment au bout du rouleau, il est là, assis dans la pénombre. Mais derrière lui, il y a un décor de lumière qui joue voilà, à travers les interstices des planches. En plus de ça, c'est des images très belles et qui ont évidemment beaucoup de sens. Vous avez aussi le sous-chef, quand tout d'un coup, il se balade, ben, il se balance, quoi. C'est ça, c'est l'air de dire allez-y, faites ce que vous voulez, moi je m'en balance, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très amusant. Voilà. Enfin bref, pourrais vous en parler 107 ans, mais le clou c'était la fin. Alors, vous avez un espèce de montage parallèle entre l'enquête, parce que tout d'un coup, qui a mis un coup de tampon comme ça sur la fesse de la cousine? Vous voyez, c'est très important, c'est-à-dire au milieu de ce contexte de guerre, enfin assez violent, on fait une enquête parce que la cousine s'est plainte lors des jeux érotiques, on lui a mis un tampon sur la fesse. Alors qui a pu faire ça? Et alors on s'aperçoit qu'effectivement le tampon est passé de main en main, donc on ne sait plus très bien qui a finalement, lors de la libération, exécuter ce geste, voilà. Et notamment, ça fait dire au chef, je me suis libéré de mon passé. C'est pour ça que ce montage parallèle est très amusant. Et puis, évidemment, c'est là que le film prend sa dimension tragique. Miloche meurt en héros. Il explose. Il a osé faire. C'est-à-dire, on a dit, il faudrait peut-être mettre une bombe dans ces trains qui passent, qui n'arrêtent pas de passer. Et ben voilà, et c'est-à-dire que les trains qui sont étroitement surveillés, il n'y a pas que les trains qui sont étroitement surveillés. Il y a aussi le pays, la société, le monde. Et on le sait bien, si on ne se soumet pas, c'est la mort. C'est terrible, quoi. Donc, un film qui a beaucoup de charme, il y a une sorte de maladresse et une naïveté, mais qui sont feintes complètement. Donc, c'est vraiment un film de haut vol, et je suis ravi que tous les gens de l'université du tiers-temps, qui sont de plus en plus cinéphiles, aient choisi pour les films du patrimoine que nous avions choisi cette année, évidemment, ce film-là. Et en seconde position, si ça vous amuse, je peux vous dire que le second a été le film d'Emir Kusturica, et ensuite Le Prince de Hombourg, très différent, et Les Vacances de Monsieur Hulot. C'est vrai que ce sont des films très différents, toujours très difficiles. Pourquoi on les aime? Bon, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, on était plutôt dans la mouvance du film que l'on a vu. Mais en tout cas, je suis très contente que ça m'a permis de parler de Jiri Menzel avec Train étroitement surveillé. Et je vous rappelle que c'est un film qui avait quand même obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 1968, que je vous recommande très vivement. Il doit exister en DVD. Franchement, je crois que ça vaut le détour. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire à peu près de Jiri Menzel. Je voulais vous rajouter une petite chose, une petite information. Si vous n'étiez pas vivant encore en 1966, peut-être vos parents ou vos grands-parents l'étaient. Et alors, figurez-vous qu'en 1966, donc il y a 50 ans, on tournait Morin des Morts. C'est un feuilleton qui a été diffusé en 1970, qui a été produit par Jean Malige, réalisé par Claude Dague. Et il se trouve que ce feuilleton était tourné à Saint-Jean-de-Cucul, Saint-Martin-de-Londres et Clapiers, notamment dans les forêts de Clapiers. Alors à Clapiers, ce samedi 4 juin à 15h, salle Jean Mali, justement, dans l'espace culturel Jean Pinceau. Je vous propose de passer quelques épisodes. Et si vous voulez revoir des épisodes donc, de Morin des Morts, c'est le moment. Et en même temps, ce qui m'intéresserait, c'est que tous les gens qui ont participé, plus ou moins, ou en tout cas qui en ont entendu parler, ou qui ont des souvenirs, des anecdotes à raconter, ben, se fassent connaître, viennent ce jour-là, je prendrai vos noms, parce que j'aimerais bien réaliser un film, un documentaire, sur justement tous ces souvenirs de cette belle période, parce que c'est vrai que le tournage de Morin des Morts, c'était une sacrée aventure, c'était un des premiers épisodes, un des premiers feuilletons qu'on tournait, et surtout dans la région, voilà. Donc je pense qu'il reste encore des gens, on avait tourné au domaine de la Tour, au château de la Maugère, on avait tourné au château d'eau, on avait même tourné dans la ferme du château d'eau, qui est actuellement le théâtre d'eau, qui n'était en effet qu'une ferme, voilà, parce que, ben oui, il faut remonter aux années 50, voilà. Il y avait même des gens qui avaient joué, notamment, je pense à Ricordi, qui faisait l'adjoint du gendarme joué par Sarfati. Voilà. Et le rôle-titre de Morin des Morts, c'était Jean Gavin, un Aveyronnais, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Pourtant, il était très âgé, mais toujours très élégant. Jean Gavin, il y avait Armand Meffre, il y avait Gilles Baladou. Et puis la musique, ça, je pense que tout le monde s'en souvient, la musique était signée Francis Lemarque. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes libre et si ça vous amuse de revoir ce feuilleton, enfin en tout cas quelques épisodes, Morin des Morts, c'est samedi donc 4 juin à 15h, salle Jean Malige, l'espace culturel Jean Pinceau à Clapiers. À bientôt! Nous reverrons la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi prochain. Merci Stéphane et à bientôt. Thank you.